Inattendu.
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 Inattendu. On poursuit notre quête de l'inattendu. Inattendu.
L'inattendu.
L'inattendu.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h06, vous êtes sur Scilab dans l'Inattendu, votre émission d'actualité locale, étudiante et scientifique préférée. Installez-vous car l'Inattendu, ça commence maintenant. Avec moi aujourd'hui en animation, Marius.
Bonjour Angelina.
Alors, qu'avons-nous au programme ?
Pour commencer cette émission, Alice reçoit Elia et Adèle, deux femmes qui vont nous parler de leur pièce de théâtre qui aura lieu ce samedi 16 mars à 18h30 à la salle Pina Bausch sur le campus de l'université Rennes 2.
Ensuite, Gwen et Lola nous feront découvrir les origines du carnaval de Rennes qui se déroulera ce samedi à partir de 15h au Tabor.
Mais tout de suite, c'est l'heure du flash info de la rédaction présentée par Lise. TikTok pourrait être interdit aux États-Unis.
Ce n'est encore qu'une menace, mais les députés américains sont passés à la vitesse supérieure en adoptant hier un projet de loi exigeant que la société ByteDance, basée à Pékin, vende sa filiale TikTok sous peine d'une interdiction nationale. Nul ne sait à ce stade si cette législation deviendra un jour effective, mais il reflète les craintes des Américains. Pour rappel, dans certains pays comme l'Inde et l'Australie, TikTok est déjà interdit.
À Aubervilliers, un jeune homme est décédé dans une collision avec une voiture de police.
Les faits se sont déroulés hier soir. L'homme qui circulait à scooter aurait refusé d'obtempérer, selon une source policière. Une enquête de l'IGPN est ouverte. Selon TF1, un témoin de la scène se serait exprimé. Il y avait deux personnes sur le scooter. La voiture leur a coupé la route et après, ils ont tamponné le mec. Après, le mec est rentré dans la camionnette en face. Le jeune homme de 19 ans circulait avec un passager dans le centre-ville d'Aubervilliers. Victime d'un arrêt cardiaque après la collision, il est décédé à l'hôpital. Légèrement blessé, le passager a été placé en garde à vue. Cette dernière a été levée ce jeudi matin et l'homme est depuis hospitalisé. Deux enquêtes ont été ouvertes, la première pour refus d'obtempérer aggravé et la seconde pour établir les circonstances de la collision mortelle.
Mobilisation pro-palestinienne à Sciences Po. Le gouvernement va saisir la justice.
Ce mercredi, une étudiante a été bloquée à l'entrée d'une salle de Sciences Po Paris lors d'une mobilisation pro-palestinienne. « Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste », auraient dit des manifestants pro-palestiniens qui occupaient l'amphithéâtre. L'étudiante, elle, affirme ne pas avoir entendu être traitée de juive ou de sioniste et a finalement pu rentrer dans la pièce. L'Union des étudiants juifs de France a affirmé que des jeunes appartenant à l'association ont été pris à partie comme juifs et sionistes. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé hier soir que le gouvernement allait saisir la justice après les événements qui se sont déroulés mardi sur le campus de Sciences Po Paris.
Soupçonné de plusieurs viols, un homme a été interpellé à Rennes.
Mercredi soir, le parquet de Rennes a annoncé qu'un homme de 24 ans avait été interpellé. Il est soupçonné d'avoir commis une série de faits de viol ou de tentatives de viol durant ces 7 derniers mois. L'homme a été placé en garde à vue. Selon le procureur, il a déjà reconnu un certain nombre de faits qui lui sont reprochés. Son interpellation est un véritable soulagement pour le procureur.
Suite à la fusillade de ce week-end à Rennes, des associations demandent la mise en sécurité des habitants.
Quelques jours après la fusillade nocturne dans le quartier du Blône, des associations de locataires demandent un renforcement des forces de police et des relogements pour les habitants et habitantes qui le souhaitent. Les témoins, traumatisés, affirment que ce n'est pas nouveau dans le quartier, mais là, on a franchi un pas. Suite à cet événement, Antoine Rousseau, directeur général d'Archipel Habitat, déclare: on s'attend à avoir des demandes de déménagement dans ce quartier. Le préfet assure être en capacité de contenir la situation malgré cette fusillade sur fond de guerre.
Le Stade Rennais connaît son adversaire pour la demi-finale de la Coupe de France.
On connaissait la date de la rencontre, le mercredi 3 avril 2024, comme l'avait annoncé la Fédération française de football. Après la défaite de Nice face au PSG hier, le Stade Rennais sait à qui il devra faire face. Les joueurs affronteront les Parisiens au Parc des Princes à Paris.
C'était le flash de la rédaction du jeudi 14 mars présenté par Lise.
C'est l'inattendu sur Scilab, 17-18h. C'est une pièce de théâtre qui parle de ce que c'est d'être une femme trans, qui déconstruit les clichés autour de cette condition, qui raconte le parcours de ces femmes trans qui montent sur scène et ainsi montre qu'il n'y a pas une seule et unique parcours lorsque l'on transitionne. C'est une pièce de théâtre à huis clos, une pièce de théâtre politique. Elle a lieu ce samedi 15 mars à l'université de Rennes 2. Pour en parler, Alice reçoit Adèle et Elia, porteuses de ce projet.
Bonjour Adèle, bonjour Elia.
Bonjour Alice.
Vous allez bien ?
Oui, très bien, et toi ?
Oui, nickel. Je vous remercie d'être avec nous ce soir en direct de l'Inattendu. Et pour commencer, Elia, je vais me tourner vers toi. Est-ce que tu peux nous dire ce que raconte cette pièce de théâtre ?
Alors déjà, je me permets de juste corriger. C'est une pièce qui est sur les parcours trans, les transidentités de manière générale. Donc ça aborde les femmes trans, mais aussi, les personnes non-binaires, qui sont des personnes trans tout autant, et aussi des mecs trans, et des hommes trans, pardon. Et donc, de quoi ça parle en résumé ? Ça parle de nos vécus. À l'initiative du projet, on voulait justement donner une représentation collective de transidentité, des transidentités, et aussi d'essayer de... d'en faire quelque chose qui est pluriel, parce que c'est vrai qu'un parcours trans est différent pour toute personne trans. Voilà.
Cette pièce vient d'une envie personnelle de ta part, Elia, qui était de créer ensemble en tant que personne concernée par la transidentité. Et dans ta réflexion, tu t'es mis à écrire une pièce de théâtre et d'autres personnes t'ont rejoint. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le déroulé de ce travail d'écriture en commun ?
Justement, dans cette volonté de donner une représentation plurielle à l'initiative, je voulais que chacun, chacune puisse aborder son vécu et en faire quelque chose pour la création. Et il s'avère que finalement, on est parti avec des gens, n'importe lesquels, on va dire. Et c'est pas forcément un exercice facile de demander d'écrire, de demander de parler de soi. Et donc, je me suis saisie de ça et j'étais la première à me jeter à l'eau en écrivant. Et puis après, ça a donné lieu à ce que d'autres se sentent à l'aise de danser, de chanter aussi et de parler de soi. Et notamment, on a une scène collective où on parle de notre doute. C'est vrai que dans notre propos, dans la lutte pour les personnes trans, on a toujours cette crainte de mal être reçu, de mal être comprise. Et y a une omerta sur le fait que nous aussi on doute, nous aussi dans nos parcours, on a des craintes, on a des peurs, et c'est pas forcément des choses qui sont évidentes, une transition. Et voilà.
Et parmi les personnes qui t'ont rejoint sur le projet, il y a toi, Adèle. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans ce projet ?
Alors moi, pour le coup, j'ai aucune expérience de théâtre, mais c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Je me suis jamais vraiment lancé dedans. Et du coup, en fait, Elia m'a proposé le projet il y a un petit moment quand même maintenant. Et je me suis dit, allez, faut se lancer à la fois parce que voilà, j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de parler de moi, de parler de nos vécus qui sont des vécus politiques. Et puis c'est toujours l'occasion de rencontrer du monde, c'était une période où j'étais quand même assez seul. Et voilà, pour toutes ces raisons-là. Et j'ai trouvé tout ce que je cherchais dans cette pièce.
Et dans cette pièce d'ailleurs, tu as rédigé un monologue, qu'est-ce qu'il raconte ?
Alors c'est pas moi qui l'ai rédigé. Je m'identifie beaucoup, mais c'est pas moi qui l'ai rédigé.
Ça parle quand même de ton vécu de...
J'ai envie de dire, ça parle de vécu de toute personne trans, un moment ou un autre. Peut-être pas à 100%, mais il y a toujours... On a plus ou moins toutes et tous le même vécu, la même rage à extérioriser. Hein. C'est un peu aussi tout le sujet de ce monologue.
Et il raconte quoi, du coup, ce monologue-là ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir entendre de ton...
Il raconte plein de choses, il raconte ce que c'est que d'être trans, à la fois de son point de vue personnel, mais aussi du point de vue des autres, dans le sens où j'aime souvent dire que le pire ennemi d'une personne trans, c'est nous-mêmes, dans le regard qu'on se donne à soi-même, mais aussi dans l'imagination qu'on a du regard des autres. Et donc du coup, il y a vraiment, je trouve, cette notion-là qui transparaît du monologue, ou d'interroger le regard extérieur qui permet d'interroger le sien et inversement, et c'est concentrique.
Et qu'est-ce que ça vous a fait d'écrire sur vous-même, de raconter votre parcours à toutes les deux, à Elia et Adèle? Ça doit être un travail quand même assez particulier à faire, un peu une introspection de soi-même.
Oui. Et puis, quand on écrit un peu au nom, enfin, en étant soi-même personne trans, quand on se saisit d'un crayon pour écrire, il y a cette... Dans sa tête, on a ce truc de... y a plein de questions qui se posent vis-à-vis de comment ça va être reçu. Bon, c'est déjà ce que j'ai dit. Mais en tout cas, pour ma part, dans ma transition, il y a eu plein de moments où, justement, par manque de représentation aussi, j'ai été surprise de plein de choses. Et il y avait cette volonté dans cette transition de trouver un exutoire, de faire du théâtre, j'en faisais déjà, et c'est en ça que ce projet m'a fait du bien, et j'espère aussi a fait du bien à d'autres, c'est que on avait des choses à dire sur nos vécus, et les représentations qu'on peut avoir des personnes trans, elles peuvent être frustrantes, parce qu'on nous donne la parole, mais en se l'appropriant souvent, enfin... On aime bien la transformer parfois aussi. Et on s'en est emparé. Voilà.
Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce que tu disais sur le fait que cette parole, elle est un peu transformée par les autres quand, est-ce qu'il y a des moyens, enfin, y a des moments où vous n'avez pas l'impression qu'elle est vraiment. Enfin, elle est plus utilisée pour des questions de com ou autre ou...
Bah, déjà par le fait que la majorité des films mainstream. Qui représentent des personnes trans ont des acteurs et actrices qui sont des personnes cis pour jouer des personnes trans.
Donc dans cis, pour définir
cisgenre, ça veut dire une personne qui n'est pas trans.
C'est-à-dire qui est née, enfin qui a été assignée femme ou homme à la naissance et qui se définit ainsi.
Qui est en accord avec son genre de naissance, si on peut dire.
Une personne normale, on pourrait dire. Non,
qu'est-ce que la normalité? Et du coup, dans les films mainstream, tu racontais que c'était joué par des personnes cis.
Oui, déjà ça, et puis même les personnages sont écrits par des personnes cis. Enfin, les documentaires qui sont faits sur nous sont faits sans nous. En fait, on est des débats, on aime bien parler en nos noms. Et on essaye de nous comprendre, on essaye de justifier notre existence. Sans forcément nous consulter. Et donc, on s'est dit qu'on va s'approprier notre parole et on va se présenter. Et voilà.
Et bon, justement, pour réapproprier cette parole-là, vous avez choisi la forme théâtrale. C'est vraiment quelque chose qui était logique pour vous, ou vous avez déjà pensé, peut-être toi, Elia, en premier, ou même toi, quand Adèle, quand t'as parlé de ce... T'as entendu parler de ce sujet-là, à d'autres formes, parce qu'on peut faire 36 000 choses pour se réapproprier une parole.
Mais bien sûr. Et puis même, de toute façon, oui, c'est une forme théâtrale, mais il y a aussi une question de je pense, enfin, questionner le théâtre et ses formes d'expression, puisque voilà, dans la pièce, il y a du théâtre, entre guillemets, pur et dur, mais il y a aussi de la danse, il y a du chant, et je pense qu'à la fin, ce qui est important, c'est l'art, c'est la parole, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quel est le projet politique. Alors politique, c'est un bien grand mot, mais il y a de la politique partout. Donc qu'est-ce qu'on veut dire, qu'importe la façon de le dire.
Et vous avez choisi aussi la forme du huis clos, pourquoi? Pourquoi ce choix? Dans la forme de votre pièce de théâtre, c'est marqué en huis clos, pourquoi?
En huis clos, en général au théâtre on est dans un huis clos. C'est parce que c'est aussi la disposition de ce que nous donne l'arrêt de théâtre et de la salle Pinaboche, enfin, c'est-à-dire. je me perds.
Non, mais vous auriez pu penser par exemple à le faire d'une autre manière. Enfin, y avait, on aurait pu imaginer cette pièce de théâtre aussi en extérieur, sur une place publique. Enfin, il y a 36 000 places.
Oui. En fait, c'est souvent ce que propose le théâtre. C'est aussi que c'est intéressant pour nous de pouvoir... parce qu'un film ou de la musique, on peut s'en échapper un peu. et justement, dans cette même volonté de... écoutez-nous, le théâtre propose quelque chose où on peut pas arrêter notre discours, on s'assoit et on attend. Souvent c'est ça au théâtre, même si c'est très bien, je pense, et ce serait bien qu'il y ait de l'interaction aussi au théâtre. Mais en tout cas c'est vivant, c'est là, on est là, on a des corps aussi. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant en huis clos et du théâtre.
Et vous avez prévu, vous avez écrit une pièce de théâtre qui parle de vous. Est-ce que vous parlez exclusivement aux personnes concernées ou justement c'est aussi un peu un appel aux personnes qui sont non concernées par la transidentité et justement dire vous êtes des curieux, des curieuses, si vous voulez en savoir, venez nous voir.
Justement, si vous êtes curieux ou curieuse, venez samedi 18h30, salle Pinabouche, venez nous voir. Ouais, je pense que la pièce, elle peut s'adresser à tout le monde, c'est clair. Et justement, on le disait tout à l'heure, il y a peut-être aussi un peu de pinkwashing par rapport à la transidentité, mais comme toute lutte LGBTI, nos vécus sont épiés par tout le monde, transformés, ça vient pas de nous. Justement, venez nous voir, venez écouter nos paroles, venez écouter ce qu'on a à dire, apprenez, mais pas n'importe comment, apprenez aussi avec nous.
Et c'est un peu, des fois, un peu fatigant de... Enfin, vous avez décidé de parler de vous mettre à nu, et en même temps, il y a plein de personnes, moi-même en tant que femme cis, j'ai envie d'en savoir plus. Des fois, je me tourne sur des personnes concernées, mais ça doit être fatigant de toujours un peu répéter la même chose, de répondre à des questions qui sont parfois un peu trop personnelles. Est-ce que c'était une manière de dire peut-être à votre entourage aussi, tenez, si vous voulez en savoir, vous venez à ma pièce de théâtre et au moins vous saurez tout et on pourra passer à autre chose que sur les questions de qu'est-ce que c'est être une femme trans ou autre.
C'est vrai que il y a un peu autour de ces questions, de nos vécus, des personnes trans, un champ lexical et un imaginaire du monstre. C'est-à-dire que on aime bien un peu questionner nos corps, savoir quelles sont nos vies. Il y a un peu une sorte de... quand on rencontre quelqu'un qui ne connaît pas, il y a souvent ce phénomène de curiosité malsaine à vouloir nous comprendre, à aussi rentrer dans notre intimité. Et oui, justement, ça peut être très pertinent si vous ne savez pas ce que c'est d'être une personne trans, de peut-être se renseigner par ce moyen-là, que ce soit le théâtre ou par d'autres moyens artistiques. Peut-être pas forcément apprendre les définitions tout de suite. Mais après, c'est pas non plus c'est pas un tabou. On n'a pas peur de parler de soi, pas plus que vous de vous. Et voilà.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la création de cet objet créatif et politique?
Comme je dis, moi j'avais aucune expérience de théâtre, donc les difficultés, je les ai plus eu à m'approprier le texte aussi d'une façon... apprendre à le jouer, découvrir le théâtre, pour moi c'est vraiment une découverte à 100%. Donc les difficultés, moi personnellement en tout cas, elles étaient plus là. Et puis c'est vrai que je travaille à côté, donc j'ai pas forcément tout le temps donc des fois se mettre dedans en fin de semaine avec la fatigue, mais c'était franchement, moi c'est quelque chose qui je me suis découverte pas un talent pour le théâtre, mais je me suis découverte une façon aussi de voir le monde, de voir nos paroles, de voir nos vécus, une façon de les exprimer en fait. Et c'était ça, à approprier le texte.
Mmh. Et pour ma part, du coup, je réponds aussi à cette question. Au début, comme je le disais, c'était vraiment le but c'était de faire quelque chose de collectif et que une énergie, une émulsion se crée et que chacun, chacune y apporte de soi à ce projet. Et c'est vrai que au final c'est plus compliqué que prévu parfois à créer ce genre de choses et puis c'est vrai qu'on a un groupe de tout horizon, des personnes qui n'avaient jamais fait de théâtre ou quoi. Et voilà, c'était toute une question de savoir comment faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise et puisse avoir un peu de soi et de sa partition.
Donc vous êtes un groupe, il y a combien de personnes qui va se produire sur scène samedi soir?
On est 8.
8, avec du coup des chants, des poèmes et de l'écriture. Il y aura des dialogues aussi, on a parlé de monologues, mais j'imagine qu'il y a un échange entre vous, c'est pas seulement...
Oui, c'est vrai, il y a pas mal de choses. Oui, il y a du dialogue, des scènes, du monologue, un peu de danse aussi, ou du drag. Non, c'est de la danse plus. Du poème, de tout ça, oui.
Nous sommes à 2 jours de l'événement, donc on le rappelle, c'est samedi soir à 18h30, donc samedi 16 mars. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous avez hâte? Vous êtes stressé? Vous avez des appréhensions?
Oui, bien sûr, je sais pas comment tu te sens, Adèle. Mais pas mal de stress. Après, je pense qu'on est prête dans ce qu'on...
En tout cas, on a tout fait pour.
Oui. Et puis maintenant, bah, on est juste dans l'attente que ça arrive, et puis de voir. Aussi, il y a l'inquiétude de comment ça va être reçu, est-ce qu'il y aura du rire, ou pas.
Ou
des pleurs.
On ne sait pas. Mais du coup, ouais, l'attente, la curiosité et le stress.
Vous avez parlé de rire, c'est une pièce de théâtre où il y a des choses drôles ou pas du tout?
Alors, je ne dirais pas ça.
Pour peut-être préparer les auditeurs et auditrices qui pourront se rendre présents.
Alors, ce n'est pas une comédie.
Non, ce n'est vraiment pas une comédie, il ne faut pas s'y méprendre. Mais il y a de l'absurde, je pense. Après, je pense que là, ça s'adressera plus aux personnes trans et aux personnes concernées. Mais peut-être que ce sera de la gêne. Non, je rigole, mais oui, il y a des personnages qui sont vraiment des stéréotypes de ce qu'on peut retrouver dans la société, et donc qui sont absurdes. Et je sais pas si ça va faire rire.
En tout cas, ça va parler et ça va choquer peut-être, ça va gêner, mais ça va transmettre de l'émotion et ça va transmettre un message. Et avant de terminer cette interview, j'aimerais parler aussi le côté pratique. Cette pièce de théâtre, elle est gratuite. Est-ce qu'il faut réserver sa place?
Alors, toutes les places en ligne ont été prises. Donc, si vous voulez nous voir, il faut venir après-demain, samedi, à 18h, je pense. Et il y aura la moitié des places disponibles qui vont être mises en vente. Et donc, on ne sait pas de combien de personnes on va attendre, mais je pense que 18h, c'est bien. Et donc, au bâtiment IREV, à l'université de Rennes 2.
Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà la moitié de la salle
oui.
qui est réservée.
Oui, c'est
bien.
Ça.
C'est une bonne chose. Bah, pour conclure cette interview, on a parlé de ton monologue un peu avant, Adèle, et j'aimerais t'inviter à lire un passage de celui-ci.
Je m'appelle Judy Kael, je suis trans. J'ai droit à la pudeur. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas dire de soi, au risque du mépris de la norme, au mépris de ceux qui décident. J'ai honte. J'ai tellement eu honte. J'ai tellement laissé autrui se saisir de ma gorge. Je me réveille, et c'est dans mon ventre que mes mots sortent et s'articulent. La voilà, la transformation. Je ne laisserai plus la honte s'emparer de mon camp. Je ne veux pas être sur scène pour dire ce qu'il se passe dans ma tête. Ma vie n'est pas des textes appris par cœur. Il n'y devrait y avoir aucun public à mon genre. Où trouvez-vous le culot de fantasmer des vécus qui ne vous concernent pas? Vous donnez des représentations à votre ignorance, à des vies qui ne vous appartiennent pas. Vous voulez nous transformer en intérêt, en chiffres, en polémiques, en audience. Pour qui vous prenez-vous? Alors je crie, Aujourd'hui, j'aimerais raconter ma vie, nos vies. Nous sommes plusieurs à ne pas avoir su quoi répondre à cette simple question. Qui es-tu ?
Vous êtes toujours dans l'inattendu sur Syllab. Merci Elia et Adèle d'être venues dans les studios de Syllab en direct de l'inattendu. Pour rappel, votre pièce de théâtre trans, c'est samedi 15 mars, anniversaire de Rennes 2 à 18h30 et c'est gratuit.
Samedi 16 mars, pardon. Oui.
Et tout de suite, une première pause musicale. On écoute Saint-Hélier de l'artiste René Diodelot. D'écouter le titre Saint-Hélier de Diodelot, un extrait de son prochain album qui sortira pour la fin du printemps.
L'inattendu. Vous êtes toujours dans l'inattendu. Et oui, vous êtes toujours sur Syllab dans l'inattendu. Il est 17h36 et pour finir cette émission, Gwen et Lola vont nous parler du carnaval de Rennes qui aura lieu ce samedi.
Elles ont rencontré Yann, membre de l'association La Pulse, et 5 étudiantes en master médiation du patrimoine et de l'histoire des territoires à Rennes 2, pour parler de ses origines.
On peut retrouver des origines du carnaval jusqu'à la période antique, avec des fêtes qu'on appelait les Saturnales, et même jusqu'à la Mésopotamie, on retrouve des traces, en tout cas de fêtes populaires. ces fêtes, les Saturnales, c'était là où on pouvait voir des échanges de rôles, etc. Par exemple, pendant la période antique, c'était des échanges où les esclaves devenaient les maîtres pour une journée, etc. Puis ensuite, le carnaval, il a été repris par la chrétienté pour devenir ce qu'on appelle aujourd'hui le Mardi Gras.
C'est aussi un moyen de revendiquer une identité et aussi des messages politiques. Donc ça peut être voilà, un moment d'amusement, de renversement de la hiérarchie, un moment où tout s'échange, les gens sont plus libres. On peut prendre l'exemple du carnaval de Notting Hill à Londres, qui a été la base de la revendication des populations trinidadiennes. En fait, c'était des minorités de Trinidad qui étaient à Londres dans les années 50 et qui avaient très peu de voix sociale. Donc elles étaient assez opprimées par les populations de blanches majoritairement. Et donc c'est vraiment une personne qui s'appelle Claudia Jones, qui est originaire de Trinidad, qui a instauré ce carnaval en 1959. Qui représente vraiment un mode d'expression symbolique caractérisé par l'art vivant, le fait de vraiment exprimer ses émotions librement avec des masques, des costumes.
Il y a une liste qui a été créée, la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, donc qui est vraiment une mesure de sauvegarde internationale, donc qui figure dans la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui a été adoptée par l'UNESCO en 2023. Et donc dans cette liste, on peut vraiment citer des carnavals du monde entier, comme le carnaval d'Oruro en Bolivie ou celui d'Alost en Belgique. Et donc pour la France, il y a le carnaval de Granville en Normandie qui est inscrit. Par exemple, pour cette liste représentative, ça va vraiment être d'inscrire donc cette dimension culturelle qui est unique et donc de pouvoir répertorier dans le monde toutes ces pratiques culturelles et de pouvoir les pérenniser, les mettre en avant.
Quel intérêt de pérenniser le carnaval ?
Et c'est quand même vecteur et représentatif de beaucoup de traditions que l'on a, tant de nos manières à nous de revendiquer certaines positions politiques, aussi de comment le peuple français, de ce qu'on pourrait appeler par exemple le petit peuple, a de voir en fait son calendrier, de vivre aussi.
Puis il faut aussi le rappeler que c'est très important parce que ça crée beaucoup d'emplois. Par exemple, le carnaval de Guadeloupe, en 2012, il a fait plus de 100 000 spectateurs et 20 000 carnavaliers. Il a beaucoup de retombées économiques sur le secteur, notamment hôtelier, tout ça. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte.
Et puis, que ce soit un grand carnaval ou un petit carnaval, c'est aussi un moment de joie qui apporte aussi une certaine coupure dans notre vie qui peut parfois nous sembler monotone ou quoi que ce soit. Ça permet une certaine cohésion sociale puisque là on va avoir des personnes de différentes classes sociales qui peuvent se regrouper, qui vont faire les mêmes choses. Donc c'est aussi important à garder.
Donc je m'appelle Yvan, je suis rennais depuis plus de 15 ans et je travaille dans l'organisation d'événements culturels. Donc j'ai travaillé pour différents festivals ou salles de concert comme les Transmusicales, Electronical, Festival Maintenant, l'Ubu. Et à titre bénévole, je m'investis dans une association qui s'appelle La Pulse et donc qui organise des différents événements culturels depuis 2020, donc un peu plus de 3 ans et demi. En fait, La Pulse, c'est né d'un événement qui a eu lieu en 2019, qui était la première édition de la Biennale de la Percussion, qui était initiée par deux amis à nous, donc Valentin et Sarah, et l'énergie qui s'est dégagée de cet événement et la réussite de l'événement nous a donné l'envie de créer une structure qui serait dédiée à l'organisation d'événements pour mettre en avant différentes musiques, alors principalement des musiques du monde, musique brésilienne, musique africaine, différents types de percussions. Et là, nous, on a voulu leur donner un petit coup de boost et une visibilité un peu plus grande à travers des événements sur lesquels nous, on s'investit. Le projet, il vient alors à l'origine de nous, nos différentes expériences personnelles, puisque la plupart des membres de l'association sont joueurs et joueuses dans des formations musicales, donc des batucada notamment, qui sont des formations de percussion brésilienne, et qui jouent voilà, avec 25-30 musiciens qui vont jouer dans la rue en déambulation. D'autres membres de l'asso qui ont joué dans des bagades ou alors dans différents groupes. Bah, déjà, ce qui nous réunit, c'est l'amour de la musique, et surtout de se réunir autour d'événements festifs et le plus accessible possible. Donc on a toujours jusqu'à présent construit nos événements en essayant d'avoir des programmations qui soient joyeuses, qui soient ensoleillées, qui donnent l'envie aux gens voilà, de passer un bon moment, et aussi des événements qui se veulent le plus accessible possible. Donc dans l'idéal, dans l'espace public, donc vraiment à l'extérieur, et qui du coup s'adresse à tout le monde, à la fois la personne qui vient spécialement pour ça, mais aussi peut-être la personne qui se balade dans la rue et qui découvre par chance le groupe qui s'y produit, et aussi des personnes qui sont à la rue et pour qui rentrer dans une salle de spectacle, même quand c'est gratuit, c'est pas toujours évident. Le samedi 16 mars, ça sera la deuxième édition du Carnaval de Rennes. Ça va être un défilé de 15h à 18h qui va partir du parc du Tabor et qui va rejoindre la place de la mairie pour ensuite aller place Sainte-Anne, et qui seront accompagnés par des marionnettes géantes. Donc là, vraiment dans l'esprit carnaval. Et il y aura également des propositions d'ateliers de maquillage en démarrage de cortège, et également un goûter solidaire qui sera mis en place. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un grand temps festif, entièrement gratuit pour les Rennais, et que les gens viennent en famille, avec leurs amis, qui viennent déguisés s'ils le souhaitent. Voilà, c'est aussi le but du carnaval, c'est un peu lâcher prise, se faire plaisir. Je pense que c'est venu un peu naturellement, parce que le carnaval, pour nous, ça évoque des grands rassemblements qui sont pleins de couleurs, qui sont festifs. Donc on pense au carnaval de Rio au Brésil, il y a le carnaval de Nice. Justement, il n'y avait pas de carnaval à Rennes. Il se trouve que jusqu'à il y a encore 5 ou 6 ans, il y avait un événement qui était organisé le jour de Mardi Gras. Il prenait la forme d'un petit carnaval qui s'appelait Mardi Gras Jour Férié. Et c'est vrai que le carnaval, tout de suite, ça a une connotation positive. Et puis c'est une occasion de lâcher prise et de se faire plaisir. Aussi dans les valeurs qu'on porte, de grande accessibilité, d'ouverture à tout le monde, le fait d'aller dans la rue, de prendre possession de la rue, c'était quelque chose qui était très parlant pour nous. Donc le Carnaval de Rennes, là, 2024, il aura lieu le samedi 16 mars, avec un démarrage du défilé à 15h au parc du Tabor, au niveau de l'entrée Saint-Melaine. Autour de 16h15-16h30, on arrivera à place de la mairie. Et ensuite, le cortège repartira pour une fin de défilé à 18h, place Sainte-Anne. Et à préciser que la fête va continuer le même soir, puisque l'association prend possession de l'UBU et organise une soirée festive aussi autour du carnaval, donc avec des DJ. Ce sera une ouverture des portes à 22h à l'UBU et une fin de soirée à 4h. Donc,
voilà. C'est plutôt pas mal. Et pour finir, est-ce que si on vous croise, vous serez déguisé aussi ?
Je suis en train de travailler mon costume, j'ai bien prévu d'être déguisé.
Bon merci beaucoup.
Merci à vous.
N'oubliez pas, ce carnaval se passe samedi à partir de 15h à l'entrée Saint-Malène du Tabor. Venez nombreuses.
Une seconde pause musicale pour finir cette émission. On écoute le duo Barbara Rivage avec son titre Promesse.
Ta tristesse, elle semble être millénaire. Tu pourrais me parler de tout ce que tu adores. Si c'est comme ça que tu me vois, ne me regarde pas. Tu me fais des promesses que tu ne tiendras pas. Promesse.
D'entendre le duo Barbara Rivage avec son titre Promesse. L'inattendu, c'est déjà fini. Rendez-vous demain à 17h pour une émission spéciale sur le patriarcat. Nous avons couvert vendredi dernier la manifestation pour le droit des femmes avec notre Radio Caddie. Et c'était une lutte au quotidien, donc on en reparle demain.
Restez sur C-Lab, car ce soir à 20h, c'est l'émission Petite Anne, un voyage musical plein de groove et d'amour, présenté par Cess et Ras Grenier.
On remercie Elena à la technique et toi Marius pour cette co-animation.
Merci et bonne soirée sur C-Lab.